le gouverneur Karl Ivanovitch. Le 12 août 1800 et quelques, juste 3 jours après le 10e anniversaire de ma naissance, celui où je reçus de si beaux cadeaux, le gouverneur Karl Ivanovitch me réveilla d'un grand coup de chasse-mouche, et si gauchement qu'il faillit faire tomber la petite icône suspendue à la tête de mon lit. La mouche, tuée et certes, me tomba sur la face. Je sortis le nez de mes couvertures assez à temps pour retenir l'image sainte trébuchante. Je jetai la mouche à terre et, de mes yeux endormis et fâchés, je fixai Karl Ivanovitch. Enveloppé d'une robe de chambre bigarrée, doublée de ouates et entourée d'une ceinture de même étoffe, coiffée d'un bonnet de tricot rouge, le gouverneur arpentait la chambre en longeant le mur et continuait sa chasse aux mouches. « Soit, pensais-je, je ne suis qu'un enfant. Mais pourquoi me dérange-t-il? Pourquoi ne poursuit-il pas les mouches près du lit de Volodia? Il y en a pourtant. Moi, je suis le plus jeune et le plus petit. Voilà pourquoi l'on me tourmente. Il ne pense qu'à cela. Sa vie se passe à me contrarier. Il sait bien qu'il m'a réveillée, que j'ai eu peur. Mais il fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Ah, le dégoûtant personnage! Sa robe de chambre, son bonnet, sa houppe, tout en lui est dégoûtant. Tandis que j'exhalais ainsi, mentalement, ma mauvaise humeur contre Karl Ivanovitch, il s'approcha de son lit, regarda sa montre qui reposait dans un petit sabot en passementerie suspendu au mur, accrocha son chasse-mouche à un clou et, la mine riante, se tourna vers nous. « Auf, Kinder, auf! It's Zeit! Die Mutter ist schon im Saal !» cria-t-il en allemand, de sa voix placide. Ce qui signifie « Debout, enfant, debout, il est temps. La mère est déjà au salon. » Il s'approcha de moi, s'assit sur le pied de mon lit et tira sa tabatière de sa poche. Je feignis de dormir. Karl Ivanovitch s'offrit d'abord une prise, s'essuya le nez, fit claquer ses doigts, puis, se tournant vers moi, se mit à me chatouiller les talons en souriant. « Nun, nun, Fräulenser, » dit-il en allemand. « Allons, allons, paresseux. » Malgré ma crainte du châtiment, je ne bougeai ni répondis. Je me renfonçai davantage dans mes oreillers et gigotai de toutes mes forces en tâchant de ne point éclater de rire. « Qu'il est bon et qu'il nous aime, » me dis-je, « moi qui viens de penser tant de mal de lui. » Je me sentis dépité contre moi-même et contre Karl Ivanovitch. Très énervé, je voulais rire et pleurer en même temps. « Ach, lassen Sie, Karl Ivanovitch !» m'écriai-je avec des larmes en sortant ma tête de dessous les oreillers. Karl Ivanovitch s'étonna, cessa de me chatouiller et me questionna avec inquiétude. « Mais qu'avez-vous? Avez-vous fait un mauvais rêve ?» Son visage de bon Allemand, la sympathie qu'il me montrait en tâchant de découvrir la cause de mes larmes, les firent couler plus abondamment encore. J'avais honte. Et je ne comprenais pas que, l'instant d'avant, j'eusse détesté Karl Ivanovitch et trouvé dégoûtant sa robe de chambre, son bonnet rouge et sa houppe. À présent, au contraire, je trouvais tout cela très beau. Même la houppe m'apparaissait comme une preuve de sa bonté. Je lui répondis qu'un mauvais rêve avait causé mes pleurs. J'avais vu ma mère morte et je suivais son cercueil. Pure invention, car je ne me rappelais nullement mes rêves de la nuit. Mais quand Karl Ivanovitch, touché par mon récit, se mit à me consoler et à me rassurer, il me sembla avoir réellement eu ce cauchemar. Et mes sanglots redoublèrent à cette fiction que je m'étais faite si réelle. Karl Ivanovitch me quitta. Je passai mes bas et à mesure que je m'habillais, mes pleurs cessèrent. Mais la triste image évoquée par mon rêve imaginaire ne me quittait pas. Nikolai, le diatka, c'est-à-dire l'homme de confiance qui a mission de surveiller les enfants, Nikolai donc entra. C'était un petit homme propre, toujours sérieux et respectueux, grand ami de Karl Ivanovitch. Il nous apportait nos habits et nos chaussures. À Volodia, ses bottes et à moi, les insupportables souliers à bouffettes que je portais encore. J'eus honte de pleurer devant lui. D'ailleurs, le soleil matinal entrait si gaiement par les fenêtres et Volodia, devant sa table de toilette, singeait avec tant de drôlerie Maria Ivanovna, la gouvernante de notre sœur, que même le sérieux Nikolai, la serviette sur l'épaule, le savon d'une main et la cruche dans l'autre, ne put s'empêcher de sourire. « Assez, Vladimir Petrovitch, dit-il, terminez donc votre toilette. » Ma tristesse me quitta tout à fait. « Sinsi Balfertik ?» nous cria Karl Ivanovitch de la salle d'études. Sa voix était sévère et n'avait plus l'expression de bonté qui venait de me toucher jusqu'aux larmes. Une fois dans la salle d'études, Karl Ivanovitch devenait un tout autre homme. Il était notre professeur. Je me lavai et m'habillai vivement et, lissant mes cheveux mouillés d'un dernier coup de brosse, je me rendis à son appel. Karl Ivanovitch, ses lunettes à cheval sur son nez, son livre à la main, s'était assis à sa place habituelle, entre la porte et la fenêtre. À gauche, il y avait deux planchettes chargées de livres. L'une supportait les nôtres et l'autre ceux de Karl Ivanovitch. Sur notre planchette, des livres de tout genre, d'études et autres, étaient empilés sans ordre, les uns debout, les autres couchés. Seuls, de grands livres de voyage à reliure rouge étaient dressés contre le mur. Puis, il y en avait des longs, des épais, des grands, des petits, des reliures sans livres et des livres sans reliure. Tout cela entassé au hasard au moment des récréations. Malgré les objurgations de Karl Ivanovitch, qui eût voulu plus d'ordre dans notre bibliothèque, car il appelait ainsi notre étagère. Sur l'étagère personnelle de Karl Ivanovitch, les livres n'étaient point aussi nombreux que sur la nôtre, mais ils étaient plus variés. Il en est trois surtout que je me rappelle. Une brochure allemande, sans reliure, sur les engrais propres à la culture des plantes potagères et des choux. Un tome en parchemin de l'histoire de la guerre de 7 ans, tout brûlé à un coin, et un cours complet d'hydrostatique. Karl Ivanovitch passait la plus grande partie de son temps à lire, si bien qu'il en avait la vue affaiblie. Mais ses livres et l'Abeille du Nord composaient toutes ses lectures. Parmi les objets rangés sur l'étagère de Karl Ivanovitch, il en est un que je me rappelle plus particulièrement. C'était un rond de carton sur lequel le gouverneur avait collé une caricature représentant une dame et un coiffeur. Karl Ivanovitch savait fort bien découper des cartonnages. Il avait façonné celui-là et, le soir, quand il travaillait à la lumière, il le plaçait devant sa lampe en guise d'écran. Je vois encore aujourd'hui sa longue silhouette drapée dans une robe de chambre ouatée et surmontée d'un bonnet rouge, d'où s'échappaient de rares mèches de cheveux gris. Il est près de la table. Devant lui, le rond de carton au coiffeur et à la dame projette de l'ombre sur sa face. D'une main, il tient un livre. L'autre main s'appuie sur le bras du fauteuil. Il a près de lui sa montre au cadran historié, un foulard à carreaux, sa tabatière noire et ronde, l'étui vert de ses lunettes. Tout cela était disposé avec ordre et méthode. De cet arrangement des moindres choses, on pouvait conclure que l'âme de Karl Ivanovitch était pure et sa conscience tranquille. Quand il m'arrivait, après avoir bien couru dans le salon du rez-de-chaussée, de me faufiler dans la salle d'études, je trouvais Karl Ivanovitch dans son fauteuil, lisant d'un air solennel un de ses livres préférés. Parfois aussi, j'entrais quand il ne lisait pas. Ses lunettes descendaient plus bas que son grand nez en bec d'aigle. Ses yeux bleus, à demi fermés, regardaient dans le vague, avec une expression particulière. et ses lèvres avaient un sourire triste. Il faisait calme dans cette chambre. On n'entendait que la respiration régulière du gouverneur et le tic-tac non moins régulier de la montre au cadran historié. Souvent, il ne me voyait pas entrer. Alors je restais sur le seuil, tout songeur. Pauvre, pauvre vieillard, nous sommes nombreux, nous jouons, nous nous égayons, et il est seul, tout seul. Personne ne le choisit, ne s'occupe de lui. Il est orphelin, dit-il, c'est bien vrai. L'histoire de sa vie est terrible. Je me rappelle à lui avoir entendu raconter à Nikolaï. C'est navrant de se trouver ainsi. Une telle pitié me prenait quand je m'approchais et lui disais tout en lui prenant la main « Lieber Karl Ivanovitch, cher Karl Ivanovitch. » Ces mots lui faisaient du bien. Il me répondait par une caresse, visiblement touchée. À l'autre mur de la salle d'études étaient suspendues des cartes géographiques, presque toutes déchirées mais habilement recollées par l'industrieux gouverneur. Sur le troisième mur qui longeait l'escalier conduisant à l'étage inférieur, étaient suspendues d'un côté deux règles, l'une toute striée, toute tailladée, et l'autre neuve, personnelle, dont Karl Ivanovitch se servait plutôt pour nous stimuler que pour tirer des lignes. De l'autre côté, un tableau noir où le gouverneur marquait nos grands forfaits de ronds à la craie et de petites croix nos fautes légères. À gauche du tableau, le coin, où l'on nous faisait mettre à genoux en expiation de nos incartades. Comme je me le rappelle bien, ce coin. Je revois encore la petite porte du poêle, le ventilateur et le bruit qu'il faisait quand on en tournait la clé. Il m'est arrivé parfois de rester si longtemps dans ce coin que les genoux et le dos commençaient à me faire mal. Je songeais alors. Karl Ivanovitch m'a oublié. Il est à l'aise, lui, dans son moelleux fauteuil, à lire son hydrostatique, et moi, je suis là, sur mes genoux, à me fatiguer. Et, pour me rappeler à son souvenir, je me mettais à ouvrir, à refermer doucement la petite porte, ou bien à gratter le mur. Mais si, brusquement, un gros morceau de plâtre se détachait et tombait avec bruit sur le sol, je vous assure que cela me donnait plus de frayeur que toutes les punitions. Je me tournais alors vers Karl Ivanovitch. Mais il n'avait pas levé les yeux de dessus son livre et était immobile, comme s'il n'eût rien remarqué. Au milieu de la salle, une table couverte d'une toile cirée noire à travers laquelle les coins de la table, tailladés de coups de canif, paraissaient. Autour de la table, plusieurs tabourets de bois blanc, rendus luisants par un usage prolongé. Le mur du fond était percé de trois fenêtres. Juste devant les fenêtres, la route passait. Les moindres excavations, les petites pierres, les ornières m'en étaient familières depuis longtemps. Derrière la route, une allée ombragée de tilleuls, taillée régulièrement, limitée çà et là par une haie en taillis. Par-delà cette allée, une plaine s'étendait, bordée d'un côté par des meules de blé et de l'autre par la forêt. Au loin, dans cette plaine, se dressait, isolée, l'isba du gardien. De la fenêtre de droite, on voyait une partie de la terrasse sur laquelle les grands attendaient, assis, l'heure du dîner. Tandis que Karl corrigeait ma dictée, il m'est arrivé souvent de regarder de ce côté, de voir une petite tête noire, quelque dos, et d'entendre vaguement des bribes de conversations et des rires. Je me sentais alors très dépité de ne pouvoir être avec eux, et je pensais « Quand donc serais-je grand ainsi, pour que mes études soient finies ? Je ne passerai pas mon temps à étudier. Je me tiendrai auprès de ceux que j'aime. Mon dépit se changeait en tristesse. Et Dieu sait comment et pourquoi, je me prenais à réfléchir au point de ne pas entendre Karl Ivanovitch me reprocher les fautes que j'avais faites. Karl Ivanovitch ôta sa robe de chambre, endossa son frac bleu aux épaules plissées, arrangea sa cravate devant la glace et nous conduisit en bas pour souhaiter le bonjour à maman.